VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Au Gabon, début à la Cour criminelle spéciale de Libreville ce jeudi du procès de l'ex-ministre du pétrole gabonais Étienne Dieudonné Ngoubou en détention préventive depuis 19 mois pour détournement de deniers publics. Le prévenu est accusé d'avoir détourné quelque 5 milliards de francs CFA, plus de 7,5 millions d'euros, et il est le premier membre du gouvernement arrêté dans le cadre de l'opération anticorruption Mamba, dite main propre, à comparaître à la barre de la Cour criminelle spéciale, la CCS. Juridiction d'exception créée en 2018 pour juger les auteurs présumés de détournement de fonds publics d'un montant supérieur à 250 000 francs CFA. Les procès à la CCS ont débuté le 15 mars 2018 et en avril, Blaise Ouada, ancien directeur général de l'unité de coordination des études et des travaux, qui a reconnu avoir touché des rétro-commissions dans des attributions de marché, a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de la défense des personnes poursuivies dans le cadre de l'opération Mamba dénoncent ce qu'ils appellent une opération à visée politique touchant de manière sélective les auteurs de détournement de fonds publics au Gabon. Violence en République centrafricaine, plusieurs groupes armés centrafricains ont signé une déclaration d'entente cette semaine à Khartoum au Soudan. Les discussions en ce sens ont eu lieu sous l'égide de la Russie et du Soudan selon les autorités centrafricaines. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué lu hier à la radio d'État à Bangui, Ange-Maxime Kazaghi, ministre de la Communication, a déclaré que la Russie et le Soudan ont pris l'initiative de cette rencontre à Khartoum dans un processus qui se tient en parallèle à la médiation de l'Union africaine. Trois groupes armés de l'ex-coalition Seleka ainsi qu'un groupe anti-Balaka ont signé une déclaration d'entente. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique de Nouridine Adam, l'Union pour la paix en Centrafrique dirigée par Ali Nadras, le mouvement patriotique pour la Centrafrique de Mahamat Al-Khatim et Maxime Mokom, l'un des principaux leaders anti-Balaka, sont signataires de cette déclaration. Moscou a tenté plusieurs fois d'organiser une réunion de médiation. Les autorités centrafricaines disent avoir pris acte de cette déclaration, mais soutiennent la démarche de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation. Une réunion entre les groupes armés et le panel de l'UA est prévue fin août à Bouar, dans l'ouest de la Centrafrique, pour harmoniser les 97 revendications qu'ils ont présentées en vue d'un accord officiel.
Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné en appel ce jeudi à 5 ans de prison ferme pour escroquerie, une décision qui confirme la peine infligée en première instance. La cour d'appel a également condamné Khalifa Sall et trois de ses 8 co-accusés à verser solidairement la somme d'1,8 milliard de francs CFA, environ 3 millions de dollars à l'État du Sénégal. Résultat, Khalifa Sall ne peut pas défier le président sortant Macky Sall à la présidentielle de février 2019, comme il a l'intention. Mais il lui reste toutefois la possibilité d'introduire un ultime recours devant la Cour suprême. Maire de Dakar depuis 2009, Khalifa Sall, un dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle, affirme que les poursuites judiciaire à son encontre vise à l'empêcher de faire acte de candidature à la présidence, ce que démentent les responsables de la majorité. Par ailleurs, la Cour suprême sénégalaise doit se prononcer également aujourd'hui sur un recours en cassation introduit par un autre candidat déclaré à la présidentielle, Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, condamné en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Karim Wade avait vu sa demande d'inscription sur les listes électorales rejetées le 2 juillet, ce qui devrait l'empêcher lui aussi de briguer la magistrature suprême. Et élections en Mauritanie, les Mauritaniens se rendent aux urnes samedi pour les élections législatives, régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de la mi-2019. Un nombre record de 98 partis politiques participent à ces élections auxquelles sont appelés plus de 1,4 million inscrits. En cas de second tour, le vote aura lieu le 15 septembre. Malgré les appels en ce sens de l'opposition, le scrutin dont les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine se déroulera en l'absence d'observateurs internationaux. Élection au Mali maintenant, 3 mois après la présidentielle, les électeurs maliens retourneront aux urnes les 28 octobre et 18 novembre pour des législatives, alors que la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta est toujours contestée par son adversaire malheureux au second tour, Soumaïla Cissé, lequel fait état de fraude électorale. Le chef de file de l'opposition dénonce en outre des arrestations extrajudiciaires d'opposants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Afrique, au cœur d'une bataille de positionnement, suscite l'intérêt des grandes puissances. À preuve, la première ministre britannique Theresa May a séjourné hier au Nigeria et se rend ensuite au Kenya. Et la chancelière allemande Angela Merkel a visité le Sénégal mercredi et son programme comprend aussi le Ghana et le Nigeria. Ces deux dirigeantes occidentales misent sur le développement du continent africain pour endiguer les flux migratoires et renforcer la lutte contre la menace djihadiste. Mais l'économiste sénégalais Ibrahima Haïdara conseille aux Africains de tempérer leurs espérances dans ce domaine.
C'est une question stratégique d'importance qui doit être adressée avec beaucoup plus d'attention et de réflexion en matière de politique de développement global. Généralement, les investissements qui arrivent ne vont pas nécessairement dans les priorités de développement des économies africaines, mais plutôt dans la satisfaction des besoins des économies développées qui y investissent. Il y a une incohérence, un paradoxe dans l'accroissement des investissements ou l'accroissement de la production intérieure brute et les flux migratoires qui sont alimentés par la pauvreté, le désœuvrement et le chômage qui existent en masse dans nos pays africains. Donc c'est comme si, contrairement à la théorie économique, ici l'investissement ne crée pas du tout d'emplois.
Ibrahima Haïdara, administrateur de programme de gouvernance et d'avancement économique à Open Society Afrique de l'Ouest. Ghana, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Accra le week-end dernier pour le festival annuel Chalewote Street, un mélange éclectique de graffiti, de musique, de mode et de spectacles contemporains destinés à réinventer l'Afrique. Les détails avec Salwa Jafari.
Ébullition. Accra, comme vous ne l'avez jamais vu. Des milliers de festivaliers ont répondu présents. Ils ont dansé, joué et bu. Bref, c'était la fête et les organisateurs ne s'en plaignent pas.
Cette année, le thème de Chalewote porte sur l'appartenance à un groupe, pas l'appartenance tout court. C'était vraiment amusant de passer de bons moments.
Plus de 100 artistes ont participé au festival. L'identité africaine est reine, bien sûr. On célèbre le renouveau. On est nostalgique. Spirituel. Un peu narcissique. Et tout le monde s'amuse dans un bain de foule.
Chalewote, en 2017, c'était bien. En 2018, ça a été formidable. C'était fou. C'était mieux que l'an dernier pour les organisateurs. C'est une excellente plateforme pour les gens de montrer leur talent créatif.
L'événement qui a duré 7 jours comprenait également des ateliers et des collaborations qui ont abouti au festival de rue ouvert au public. Chalewote, qui signifie « Allez, on y va » dans la langue locale, veut rallier les Africains et le reste du monde, briser les frontières, tout en élevant Accra à la place qu'elle mérite dans le paysage artistique et culturel du continent.
Élections aux États-Unis pour terminer. Andrew Gillum, le premier candidat noir au poste de gouverneur en Floride, qui est soutenu par le leader démocrate de gauche Bernie Sanders, affrontera sur un programme progressiste un républicain pro-Trump convaincu en novembre. Dans un duel cristallisant la poussée des candidats anti-establishment aux États-Unis. Au micro d'Abdou Amandia, l'universitaire américain Leonardo Villaron souligne ici la polarisation de la vie politique aux États-Unis.
Ce que nous voyons en Floride, c'est qu'en fait, les deux partis on choisit des candidats dans les primaires qui sont plutôt vers l'extrême, de droite d'un côté et de gauche de l'autre, de leur propre parti. Je crois que ça reflète une polarisation au niveau national. Ce n'est pas une situation normale en Floride, c'est-à-dire n'importe où aux États-Unis, cette polarisation. La Floride, comme vous le savez, sans doute, c'est un État très divisé, c'est-à-dire c'est un swing state, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est un État qui bascule, c'est à peu près 50-50% démocrate républicain, il bascule d'un côté à l'autre assez facilement. Donc on s'attend que ça soit une bataille assez féroce.
L'université américaine Leonardo Villagrán au micro d'Abdourahmane Dia. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.